VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Ouagadougou, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, 7 gardes pénitentiaires relevés de leurs fonctions. Idem pour le commandant du palais de justice du plateau, d'Abidjan, qui a été également mis aux arrêts. Les sanctions prises par le directeur de l'administration pénitentiaire Joachim Kongwe Kofi après l'évasion de 20 personnes du palais de justice d'Abidjan en plein centre de la capitale économique ivoirienne hier après avoir agressé des policiers. Les détails avec Solange Nyamulisa.
Le procureur Richard Christophe Adou a déclaré que 10 détenus et 10 déférés se sont évadés vers 11h hier matin. Il a dit que les détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, déférés au palais de justice, ont agressé des agents de police, ce qui a permis l'évasion de 20 personnes. Il a précisé qu'il s'agit bel et bien d'une évasion et non d'une attaque. Mais selon une source judiciaire, l'évasion a été organisée par un commando d'hommes armés qui se sont introduits dans le palais de justice.
Au Burkina Faso, les chauffeurs routiers comptent aller de nouveau en grève dès ce mercredi. Cette fois-ci, c'est pour protester contre des propos du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui a défendu les éléments des forces de sécurité ayant bastonné des chauffeurs la semaine dernière. Mohamed Lamine Ouedraogo est porte-parole de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso.
La semaine passée, il y avait des accords où il fallait payer les taxes introduites par 2 mois. L'Union des chauffeurs routiers avait pris un accord, donc signé les accords, et maintenant ça devait prendre effet après le 31 juillet. Donc l'Union des chauffeurs routiers burkinabé ne sont pas opposés, mais ils ont dit que le fait que les chauffeurs aient effectué le voyage, aller sans prendre les taxes avec les propriétaires des véhicules, il est très difficile d'avoir de l'argent au retour pour payer ses taxes. Donc c'est dans ce refus-là qu'il y a eu maintenant un affrontement entre les forces de l'ordre et les chauffeurs. Le ministère des Transports est rentré en contact avec les chauffeurs. Ils sont tombés d'accord maintenant de l'application de la taxe le 1er septembre. Donc ça, c'était rentré dans l'ordre. Maintenant, les chauffeurs ont demandé qu'on passe la lumière sur le bavure commis par les forces de l'ordre. Maintenant, le ministre est sorti sur les zones hier, dit qu'il n'y aura rien, que les forces de l'ordre n'ont qu'à se rassurer, que rien ne peut leur arriver. Que même devant les tribunaux, rien ne peut arriver à ces forces de l'ordre.
Mohamed Lamine Ouedraogo est porte-parole de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso. Pèlerinage à la Mecque. Maintenant, chaque année, des centaines de milliers de musulmans du monde entier se rencontrent en Arabie Saoudite afin d'accomplir le Hajj, un des piliers de l'islam. Notre correspondant Sidiki Baro nous parle ici de l'étape de Médine, où il s'est entretenu avec des pèlerins ivoiriens et maliens.
L'aéroport international Ibn Abdulaziz ne désemplit plus. Un balai incessant d'avions atterrissent avec à bord des pèlerins venus de tout le monde entier. Voyage épuisant certes, mais très exaltant, comme le confessent ces pèlerins venus de divers horizons à qui nous avons tendu notre micro.
Je suis Jarasoubadia Karidia de Pougon. Et le parcours, je l'ai passé franchement avec beaucoup d'appréhension, alors que ça s'est bien passé. Au départ, je m'inquiétais, mais je suis déjà là.
Madame Haïdara, je suis de Bamako, des quartiers de Ravel. Là, vraiment, nous avons accueilli vraiment dans les bonnes conditions, franchement dit.
Après les formalités de l'aéroport, le logement est la préoccupation majeure des pèlerins. Les autorités de plusieurs États ouest-africains, tels que la Côte d'Ivoire et le Mali, s'investissent afin de garantir à leurs ressortissants les meilleures conditions d'hébergement. Car l'un des défis majeurs consiste à trouver des logements autour de la mosquée Al-Haram.
Le lieutenant-colonel Fofana Mamadou me recevait Ousmane. Voilà, le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous sommes arrivés et maintenant nous sommes à l'hôtel, nous cherchons à nous faire loger. Le cadre est très beau. J'ai pu lorgner du côté de la mosquée du prophète. Ça augmente ma foi.
Moustapha Sivi, je viens du Mali, dans le cercle de Kita. Depuis qu'on est venu, si tout va bien, on n'est pas loin de la mosquée. Alhamdoulilah, tout ce qu'on veut voir ici, parce qu'on a tout vu. Nos dirigeants nous dirigent dans les bonnes conditions.
Pour l'étape de Médine, les communautés ivoiriennes et maliennes disent être satisfaites.
Je suis satisfait, tout est bien, l'organisation, tout l'accueil, bon, tout est bien.
Yaya Traoré, de Sigasso. Bon, effectivement, on a bien arrivé, on a bien hébergé aussi. Bon, il n'y a pas aucun problème. Bon, notre logement et la mosquée, c'est pas loin. Quelque part seulement, bon, on peut arriver à la mosquée facilement. Depuis qu'on est arrivé, on peut faire les 5 prières régulièrement. Effectivement, on est à l'aise.
La ville de Médine ne fait pas partie des rituels du Hajj. C'est surtout une étape consacrée à la visite des lieux saints tels que la mosquée Al-Haram, la mosquée où repose le prophète de l'islam et certains de ses fidèles compagnons. Siriki Baro, Médine pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Centrafrique, de violents combats ont fait au moins 3 morts à Gambo, dans le sud du pays, parmi les membres de la Croix-Rouge. Les précisions de John Lindon.
Les combats ont eu lieu il y a quelques jours à Gambo, dont loin de Bangassou, à l'est de Bangui. Selon le président de la Croix-Rouge centrafricaine Antoine Bao Bogo, le président local, le trésorier et plusieurs volontaires ont été tués. Il dit ne pas avoir le nombre exact de personnes tuées, mais déplore le décès de plusieurs membres de son organisation au centre de santé de la ville. Ces combats ont opposé des milices dites d'autodéfense à des membres du groupe armé Unité du Peuple Centrafricain, faction de l'ex-rébellion Séléka. Un décompte de l'Agence humanitaire des Nations Unies fait également état depuis juillet de 24 morts à Badangafo et une dizaine à Lindao. D'autres combats ont été signalés en Gaoundaï, à la frontière avec le Cameroun et le Tchad, qui ont fait au moins une dizaine de morts et forcé près de 7000 personnes à fuir.
En RDC, deuxième journée ville morte à l'échelle nationale organisée par l'opposition ce mercredi pour réclamer le départ du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré en décembre 2016. Un mouvement de protestation suivi principalement à Kinshasa mardi. La capitale avait été le théâtre la veille de violences qui avaient fait au moins 12 morts lundi. Et une cinquantaine de responsables présumés de ces violences sont entre les mains de la police, Eddie Sango.
Une cinquantaine de personnes accusées de violences de lundi étaient visibles à la cour de l'inspection de la police à Kinshasa, pieds nus, assis sur des chaises en plastique sous la surveillance des policiers en uniforme. Ces individus sont présentés comme les fauteurs de troubles lundi qui ont fait au moins 12 morts. Certains portaient un béret rouge ou un bandeau rouge autour de la tête. Parmi eux, 3 femmes. Fétiches et autres bâtons sont déposés à même les sols avec des posters à l'effigie de Nemwanda Nsemi, gourou du mouvement Bundudia Congo. La secte réclame le départ du président Joseph Kabila, maintenu au pouvoir après expiration de son mandat. Hier mardi, l'activité tournait au ralenti à Kinshasa pour la première des 2 journées ville morte appelées par l'opposition qui exige la publication d'un calendrier électoral et le départ du président Kabila.
En Afrique du Sud, le Parlement a rejeté hier la motion de défiance contre le président Jacob Zuma, présentée par l'opposition. Le vote à bulletin secret n'a pas suffi pour faire tomber le président Zuma, mais la presse sud-africaine estime aujourd'hui que l'échec de la motion de défiance la veille n'était qu'une victoire à la Pyrrhus pour le chef de l'État. Le vote relativement serré exprimant des divisions profondes au sein de l'ANC, le parti au pouvoir. Mardi soir, il n'a manqué que 24 voix sur 400 pour que la motion de défiance soit votée par les députés. L'explication de l'analyste politique Achille Mbembe en Afrique du Sud.
Monsieur Zuma est une vieille casserole qui traîne énormément de scandales. C'est peut-être la dernière motion de défiance au Parlement. Mais il n'y a pas que le Parlement. Il y a d'autres épreuves qui l'attendent devant les tribunaux, devant le Conseil constitutionnel, par exemple. Ce n'est pas du tout la fin de ses tourments. Et cela ne m'étonnerait absolument pas si M. Zuma devait être congédié par son parti lui-même d'ici la fin de l'année. Ce qui est apparu, c'est que la victoire de M. Zuma est une victoire à la Pyrrhus. L'ANC a étalé devant la nation sud-africaine les profondes divisions dont elle est affligée depuis plusieurs années déjà et qui avaient déjà abouti, ne l'oublions pas, déjà à la fondation de Co, à la fondation de l'IFF de Julius Malema, à cette espèce de petite scission. Et au moment où nous parlons, il y a une faction réformiste très forte à l'intérieur du parti qui risque de s'en aller au cas où le cas Zuma n'est pas proprement réglé. Et donc, consacre au fond le début des hostilités. Ce n'est pas la fin du tout.
Achille Mbembe en Afrique du Sud. Et pour terminer, au Kenya, l'opposition affirme aujourd'hui que les résultats de l'élection présidentielle d'hier, donnant une large avance au président sortant Uhuru Kenyatta, ont été truqués par des pirates informatiques et ont réussi à prendre le contrôle du système électronique de collecte des données électorales. Des échauffourées ont éclaté ce mercredi entre police, anti-émeute et manifestants à Kisumu, grande ville de l'ouest du Kenya, et un des fiefs du principal candidat de l'opposition à la présidentielle, Raila Odinga, qui rejette catégoriquement les résultats du scrutin. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.